Polar sur Loire, le rendez-vous des auteurs de Polar en Touraine. Le suspense dure ce samedi jusqu'à 19h, salle Okegem à Tours et sur Radioactive et RFL 101. Polar sur Loire, on est de retour avec vous pour en direct du salon plutôt comme on dit habituellement, littéraire des auteurs de polar ligériens. Et on a le plaisir d'accueillir maintenant Michel Douard.
Oui, bonjour.
Bonjour Michel et bienvenue sur ce plateau avec Anne, chroniqueuse des poches sous les yeux à Radio Béton, pour parler de votre travail. Il y a un titre qui vient de sortir, c'est Micro Noir.
Oui, qui vient de sortir en
pocket.
En poche, un an après sa sortie en grand format à la manufacture de livres.
Voilà, c'est ça. Et le dernier qui vient de sortir, du coup, le plus récent, c'est Mourir et le verbe approprié.
Non.
C'est bien
non.
Ça. Non plus, ça, j'ai perdu.
Ça, c'était le premier. C'était le premier.
D'accord. Alors, c'est sur pocket, ils mettent des dates un peu bizarres. Donc, Micro Noir, c'est le plus récent.
C'est le plus récent.
Et donc, il vient de sortir en pocket.
Oui.
D'accord. Donc ça, c'est l'actualité éditoriale la plus récente.
Oui, c'est la plus récente. Et puis j'en ai un autre en route qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Et je ne sais pas s'il sortira, celui-là, en revanche.
Alors c'est un peu trop tôt pour le dire,
je ne suis pas lié par contre.
Alors on discutait avec quelques auteurs qui sont passés ici juste avant. Claudine disait que sur e-book elle se mettait dans la catégorie polar cozy. Andrew Matthews, lui, il écrit des thrillers. Michel Douard, comment vous qualifiez-vous simplement hein?
Pour les deux premiers, c'est de l'anticipation, c'est des dystopies. Avec un fond de thriller, même pas, parce qu'il n'y a pas une énigme particulièrement intéressante à découvrir, ou c'est surtout des personnages, et c'est surtout toujours avec un peu de drôlerie, quoi. Enfin, j'essaye que ça soit un peu décalé, un petit peu le côté noir. Alors, c'est du roman noir, mais en même temps, je m'attache toujours à ce que. Soit à travers les dialogues, soit par des personnages qui sont vraiment décalés dans leur situation, à rendre le truc un peu drôle, quoi.
Dystopie, c'est-à-dire des mondes, c'est des mondes horribles, hein, c'est l'inverse d'une utopie.
Oui, c'est des mondes compliqués vers lesquels, d'après moi, on se dirige. Je pense même que là, en l'occurrence, le dernier, comme le premier, ça se situe en 2048. Et la société que je décris, mais c'est pas le plus important, hein, ça sert vraiment de décor, parce que c'est surtout mes personnages qui sont importants pour moi, leur rapport entre un père, un fils, un grand-père, c'est surtout ça qui est important, mais tout ça c'est guidé par une vie qui a changé, et je pense qu'elle aura changé au moins autant que ça. Quand j'ai commencé à parler de drones, par exemple, dans le premier, c'était il y a 3 ans, 4 ans, parce que je m'étais intéressé aux drones. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, les drones, ils vont servir bientôt à surveiller les gens dans certains quartiers, ou soi-disant à prévenir les incendies de forêt, mais ils sont de plus en plus présents, et ils sont dans mon livre. Il n'y a pas de voiture qui vole, c'est pas de la science-fiction en l'occurrence. Je pense que la société, on s'y dirige.
C'est une extrapolation peut-être de ce que tu perçois dans la technologie, dans la société de maintenant.
La technologie ou la politique qui s'efface devant l'économie. Et ça, par exemple, le traité qui vient d'être signé de libre-échange.
Le CETA.
Le CETA, pour moi, dans mes livres, c'est un peu la conséquence de ça.
En fait, en nous parlant de demain, tu nous parles quelque part d'aujourd'hui.
Oui, oui.
Comme disait Anne, c'est un miroir grossissant de ce que tu ressens de l'époque, quoi,
de notre époque, là. C'est pour ça que ça me gêne que ça soit de l'anticipation. Et en même temps, ça me permet de le raconter. Alors qu'aujourd'hui, je serais bien embêté si je devais parler de ce qui me dérange dans une société d'aujourd'hui. Je trouve que ça serait bien lourdingue, ouais. En fait, d'en parler de cette façon-là. Donc je le décale.
Alors tu parlais de la relation entre les personnages, du travail des personnages, et que c'est vraiment ça qui t'intéresse.
Ça mène tout, oui. Ah oui. Parce que en fait, j'ai pas de fiches, j'ai pas de choses, j'ai pas de plan bien défini en fait. J'en ai un très grossier. Et puis c'est les personnages, je les lâche tels qu'ils sont, et c'est eux qui font l'histoire tout seuls. Je tire une ficelle et la pelote, elle se défait. Leur rapport, ils sont logiques en fonction de leur caractère et j'ai besoin de rien faire en fait. Ils vivent tout seuls, ils font ce qu'ils veulent.
Et ils viennent d'où ces personnages ?
Oh bah, c'est des gens que je connais. C'est des gens que je connais, à qui je rajoute des qualités, j'enlève des défauts. Souvent, ça part de gens que je connais très bien quand même.
D'accord.
Qui se reconnaissent la plupart du temps.
Anne sourit, se demande.
Non, mais je trouve ça intéressant, un auteur qui exprime un petit peu comment il écrit, puisque certains ont des plans très structurés qui suivent à la lettre, et toi tu nous dis, je pose un personnage et je le regarde vivre et ma main suit.
Oui, j'ai une idée générale et c'est vrai que de jour après jour, l'histoire évolue et j'ai pas la sensation d'y travailler quoi en fait.
Mm-hmm.
Je travaille plus sur le style, à essayer de gratter pour que ça soit pas pompeux, pour pas qu'il y ait des clichés, je travaille le style et je m'y remets en essayant que ça soit le plus fluide et le plus péchu possible.
Mm-hmm.
Mais les structures et tout ça, je m'en fous un peu quoi. Le polar, l'énigme, le truc, ça me plaît pas d'en lire déjà, donc je m'ennuie quand je lis ça. Donc j'allais pas le
c'est
faire.
C'est plus une ambiance, ouais. Du roman noir comme tu disais tout à l'heure que vraiment le côté intrigue. Et méchants.
Souvent
et tout
mes
ça.
Personnages se trouvent plongés dans des gros problèmes parce que c'est vrai que ça fait pas rire, si tout se passe bien de A à Z, ça fait pas rigoler. Il faut qu'ils aient des gros soucis et que ces soucis paraissent insolubles comme ça. Et en même temps, ils s'en sortent toujours un peu mes personnages quelque part. Je veux pas les
accabler.
Non, je les aime trop pour ça. Je veux pas qu'il leur arrive des trucs vraiment définitifs.
Ouais, je crois que, pour connaître d'autres auteurs, je crois qu'effectivement, il faut qu'un auteur aime ses personnages pour qu'on puisse les vivre pleinement avec lui.
Et tu parlais d'humour, donc aussi, tu t'attaches à ce qu'est de l'humour dans les romans.
Oui, souvent à travers les dialogues ou les décalages de ces personnages ou leur accablement. Ça me fait rire.
Ça permet de prendre aussi du recul par rapport à ce dont on parlait, ce regard noir sur la société, sur son évolution.
Ah bah oui, parce que ça serait affreux sinon. Ça serait horrible. Puis je sais pas si on prendrait autant de plaisir à lire ça parce que je suis pas Orwell puis d'autres le font très très bien. Non, moi j'aime bien retrouver. Enfin, j'ai écrit ce que moi j'aime bien lire. Voilà, en fait, hein. J'aime bien marrer aussi un peu. J'aime qu'il y ait des dérapages quoi en fait, des choses. C'est ça qui me fait rire, que ça dérape, qu'on s'y attende pas et que ce soit tellement dingue que. Voilà.
Que ça fait rire.
Oui.
Alors en 2013, donc, tu sortais Chinese Strike, la manufacture de livres.
Qui est devenu mourir et le verbe approprié. Je précise que ni l'un ni l'autre, je ne suis. C'est pas moi qui ai écrit les titres. Hein. L'éditeur a le droit de changer les titres. Donc le premier, il s'appelait Dernier Paradis, qui est le nom de la maison de retraite dans laquelle se déroule l'ensemble pratiquement de l'histoire. Et puis, pour des raisons que je n'ai pas compris. Ils ont changé. Alors c'est devenu Shiny Strike pour le nom des cigarettes que fumait le vieux héros, mais bon, c'était pas terrible. Pocket, quand ils ont racheté le titre, ils ont changé aussi et c'est devenu Mourir est le verbe approprié, qui est une phrase qui est tirée du livre.
D'accord, qui est un beau titre, moi je trouve.
Voilà, ils s'en sont mieux tirés que mon éditeur là, sur ce coup-là. Et puis le deuxième, c'était Micron Noir, c'était le titre, puisqu'il s'agit du nom d'une drogue militaire, un peu comme la drogue des djihadistes en ce moment. Enfin là, c'est pareil, j'ai rien inventé. Hein. Le Captagon, je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais,
sont des drogues qui permettent aux soldats d'aller se battre avec davantage d'entrain. Hein. Donc, comme de tout temps, on a drogué ou alcoolisé
les soldats. Ouais,
bon,
tout à fait.
Celle-ci, elle est particulière dans le sens où elle a été créée uniquement pour ça et que celle-ci est particulièrement performante.
Et donc, c'est le point de départ de cette intrigue qu'on peut rappeler, au moins le départ.
Eh ben, oui.
Donc, 2048.
En 2048, il y a eu une troisième guerre mondiale qui est passée en 2032. cette Troisième Guerre mondiale a été tellement traumatisante, tant pour les populations que pour les multinationales qui se sont assis sur leurs profits pendant que ça se déchirait un peu partout dans le monde, qu'on a trouvé un nouveau mode de règlement des conflits. Dès qu'il y a un conflit, ce sont les armées et uniquement les armées qui s'affrontent. Très vite, cette façon de procéder dans un cadre comparable à celui du sport de haut niveau, très vite ça a dérapé dans le sens où ça a été médiatisé beaucoup. Donc les raisons de conflit se sont multipliées aussi.
Pour faire de l'audience.
Pour faire de l'audience, pour vendre. Donc le business continue, la guerre est permanente, quasi permanente. Et c'est l'histoire de deux soldats qui sont embringués là-dedans comme des sportifs de haut niveau. Ils ont bien voulu y aller hein, parce que leurs salaires sont astronomiques. Et malheureusement, alors, c'est surtout les rapports entre un de ces soldats, son meilleur ami qui ne fait que des conneries, qui est comme un sportif de haut niveau soumis à la tentation et donc à la drogue... à des fréquentations pas formidables. Ils vont être entraînés dans une sale histoire à cause de cette fameuse drogue. Voilà.
D'accord. Micron noir, sorti chez Pocket, qu'on peut trouver ici au Salon Polar sur Loire, Saloque Game. On peut un petit peu parler du prochain ou c'est trop tôt?
Le prochain, je suis en train de le finir, mais ça ne sera pas un roman d'anticipation. C'est plutôt un roman d'apprentissage. Ça se passe à la fin des années 70. Et là, c'est le narrateur, c'est un jeune garçon qui a 17 ans. Donc ça n'a absolument rien à voir. Lui aussi, il est bien embêté, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je faisais avant. En fait.
Et roman d'apprentissage, plutôt pour la jeunesse ou non là,
Non,
vraiment
non
tout public,
c'est mon héros qui apprend la vie, là.
D'accord, parce que souvent, on a tendance à considérer que roman d'apprentissage égale roman pour jeunes ados.
Non, je ne pense pas que ça soit... Non, je pense pas. Non,
d'accord.
Non.
Michel Douard, merci beaucoup. Une dernière question traditionnelle.
Juste une petite question. S'il n'en restait qu'un, de quel livre mettrais-tu dans tes bagages?
Alors, s'il n'en restait qu'un, ça c'est tout à l'heure, on parlait de ces Heller avec La constellation du chien, mais c'est celui que je suis en train de lire et qui se rapproche un peu de ce que j'écris moi, puisqu'il s'agit d'une sorte d'anticipation un peu morbide aussi. Mais. S'il en restait qu'un, franchement non, j'ai lu trop de trucs formidables pour t'en citer qu'un, c'est impossible. Si c'est les premières claques de aussi, ouais, c'est peut-être Le Voyage, c'est peut-être Céline avec Le Voyage au bout de la nuit, parce que c'est un truc que j'ai lu quand j'étais ado et que c'est lié aussi à ma famille qui m'a fait lire ça. Donc j'emmène celui-là, parce que je peux le relire, il n'y a pas de problème.
Merci.
Merci Michel Douard. On poursuit cette émission en direct de Polar sur Loire après une petite pause musicale. À tout à l'heure.
Bon, ça va, j'ai...
Non, pas du tout.